On s'est parlé plus tôt cette semaine du dossier de Marie-Claude Malbeuf, la journaliste de La Presse, qui nous parlait du fléau, du voyeurisme. C'est des cas là, qui ont été répertoriés à la Cour du Québec, qui a amené la Cour à dire que ce crime-là était carrément un fléau social dont l'ampleur était directement proportionnelle à l'évolution de la technologie. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est une recrudescence vraiment de codes, caméras cachées, par exemple, dans des objets du quotidien, dans des douches, dans des endroits publics, qui fait que, on s'en parlait lundi, finalement, on est quasiment tous à risque d'être l'objet de ce genre de caméras-là, puis d'être filmé à notre insu, ça c'est une chose. Puis on parlait de plus en plus de déviance, finalement, parce que ce genre de comportement-là, moi je posais la question, est-ce qu'on peut considérer que c'est une déviance sexuelle? T'sais, je vous disais, on n'a pas la même sexualité, là. Moi, regarder des gens qui font leurs besoins dans des toilettes publiques, je trouve pas ça excitant, même pas un quart de seconde. Je sais pas vous autres, mais... Alors, pourquoi il y en a qui vont ensuite sur des sites porno, carrément, pour regarder ce genre d'image? Puis c'est pas quelques personnes pour que la Cour du Québec dise c'est un fléau, pour que les services de police le disent, on n'arrive pas, là. Il y en a tellement. Alors, on a avec nous le sexologue spécialiste en délinquance sexuelle, Mario Larrivé-Côté. Bonjour, Mario.
Bon matin, Isabelle.
Écoute, c'est toi, évidemment, on t'a rien appris, t'es au courant de ça, hein? Non. Là, on parle de voyeur. Évidemment, on se dit tout le temps, le bagua, tout le monde est un peu voyeur, mais il y a voyeur et voyeur. Là, ici, ce sont des gens qui épient les autres, ils mettent des caméras dans des vis, dans des objets du quotidien, des bouteilles de shampoing, tu sais, à un moment donné, ça dépasse, là, je veux surveiller mes employés ou mes collègues, ou je veux, ça dépasse ça, là. Quelle est ta réaction par rapport à ce phénomène qu'on considère comme un fléau?
Ben, en fait, Isabelle, je vais commencer par te faire une confidence ce matin. Au milieu des années 90, là, quand j'ai commencé à pratiquer, l'Internet commençait aussi à peu près, là. À cette époque-là, je pensais que l'Internet réglerait tous les problèmes. Finalement, les gens qui avaient des problèmes sexuels pourraient consulter des sites, puis lire des articles, puis tout ça, puis régler un peu leurs problèmes. Ce que ça a créé, c'est vraiment, je dirais, une augmentation de la fantasmatique déviante des individus qui étaient à la base déjà déviants. Parce que ça leur a donné des images, des idées qu'ils n'auraient probablement jamais eues d'eux-mêmes. En fait, la technologie ne crée pas la déviance, mais facilite l'alimentation de la déviance. Là.
Mm-hmm.
Et des voyeurs, comme tu disais tantôt, oui, on peut penser qu'il y a à peu près 50% des hommes qui ont un côté voyeur. Mais le voyeurisme, comme à peu près n'importe quelle autre déviance, c'est essentiellement, malheureusement, un problème masculin. Là. La majorité des déviances, souvent, ça passe par les hommes. Mais tu sais, la technologie, là, si on parle de voyeur, initialement, on va dire, tu sais, dans le temps, là, ben, les gars qui avaient cette problématique-là devaient comme aller, mettons, épier leur voisine par la fenêtre, par la porte patio, ou aller dans les toilettes publiques, puis faire des petits trous, puis essayer d'épier dans l'autre cabine d'à côté. Bon, c'était plus direct. Maintenant, bon, on l'a vu là, avec tous les articles dans la presse, c'est que là, ces gars-là, maintenant, ben, avec les caméras, les téléphones cellulaires, ben, ont accès à un paquet d'autres modes de fonctionnement pour pouvoir arriver à leur fin, donc avoir du contenu sexuel. Puis, tu sais, au niveau de la technologie, tu sais, on parle de voyeurs, mais les exhibitionnistes, avant, devaient aller dans les lieux publics, tu sais, l'espèce de gars qu'on s'imagine avec l'impair qui ouvre son imperméable pour montrer son pénis, ben, les gars qui font, entre guillemets, là, l'expression anglaise, là, des dick pics, là.
Ouais.
Donc, prennent leur pénis en photo, puis envoient ça sur leur cellulaire, ben, c'est une forme d'exhibitionniste aussi par la technologie, là. Le principe est le même, c'est de susciter une réaction chez l'autre. Puis quand on parle de pornographie juvénile, à l'époque, souvent, les gars, ben, ils allaient sur le marché noir, puis ils devaient entrer en contact avec des hommes qui leur donnaient des photos ou qui leur donnaient des vidéos vraiment d'enfants. Puis là, ils payaient. C'était vraiment l'échange physique. Maintenant, on le sait, tout se fait par le dark web puis les gars qui consomment de la pornographie juvénile, ben ils fonctionnent comme ça. Puis les parcs, les écoles, les individus qui voulaient essayer de solliciter un enfant, ben maintenant ben ils vont essayer de les leurrer par informatique. Fait que tout ce que ça fait, c'est que les déviances sont les mêmes, sauf que évidemment et malheureusement, ben la technologie est utilisée pour alimenter la fantasmatique des déviants.
Incroyable, tout ça, ce que tu nous dis. Mario, l'arrivée côté, tu dis, bon, si je prends sur les dick pics, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont reçu, encore dernièrement, j'en ai reçu un, là, tu sais, pas beau, là, si c'est comme, et ça te travaille longtemps, c'est niaiseux, là, mais tu restes la journée avec cette espèce d'image dans ta tête, mais quand tu dis, ils veulent créer une réaction chez l'autre, est-ce qu'ils sont conscients que c'est une réaction dégoût qu'ils vont créer?
Pas nécessairement, parce qu'il y en a là-dedans, tu sais, si on parle de dick pic, il y en a qui vont penser qu'ils ont, je vais dire, un superbe pénis.
Non, mais là, ils pensent tous qu'ils ont le pénis du siècle, là, j'imagine. Là, tu sais. Il faut vraiment que tu te trouves bon pour l'envoyer en photo. Là.
Ben, il y a ceux qui pensent qu'ils ont un superbe pénis, puis que là, ils te font un cadeau en te l'envoyant. Mais il y a quand même ceux qui doutent de leur pénis, puis qui souhaitent donc avoir des bons commentaires. Tu sais, il y a toujours souvent deux côtés à une médaille, puis si c'est pas trois, même, tu sais, mettons qu'on prend une pièce de monnaie, là, il y a les deux côtés, puis il y a le milieu, là. Tu sais, il y a des fois deux, trois facettes possibles,
là. Écoute, ouais. Moi, je peux pas croire. Un gars envoie un dick pic à quelqu'un, à quelqu'une, puis il pense que la personne va dire « Ah, joli pénis! »
Oui, mais je l'ai déjà vu d'exhibitionnistes aussi me dire que, tu sais, quand une femme verrait leur pénis, là, mettons, en vrai, là, en s'exhibant, ben, qu'elle tomberait en amour, là, elle tomberait sous le charme, là.
Oh,
j'avais demandé à un moment donné, j'ai dit, puis est-ce que ton mode de séduction a fonctionné?
Puis il a dit oui!
Là, il y avait comme une espèce d'interrogation, tu sais, un gros point d'interrogation dans sa face, là. Puis elle va dire, hey, c'est vrai, hein, ça n'a jamais marché.
Oui. Change ta stratégie, mon homme. Eh boy. Non, puis là-dessus, on fait une aparté, mais messieurs, si vous vous demandez qu'est-ce qu'une femme aime, là, avant votre pénis, là, qui est un accessoire, c'est vraiment, on aime beaucoup les gars drôles et on aime beaucoup les gars qui ont de la répartie, de l'éducation un peu, qui sont gentils. Oui, c'est assez universel, ça. Mais les gars qui nous envoient des photos de leur pénis, pas de tête, là. On aime moins ça. Là, c'est le dick pic, parce que tu as parlé du dick pic, mais oui. tu disais quand même, la statistique est importante et a été frappante. 50% des hommes sont voyeurs. Des voyeurs que tu qualifies de tendance déviante ou est-ce que tu as des niveaux? Je sais que tu m'as souvent dit, il n'y a pas de portrait type d'un déviant, mais dans le voyeurisme, est-ce que tu as le voyeur commun puis tu as le voyeur déviant? Est-ce que c'est ça?
Ben, mettons un homme qui trouve sa voisine belle, puis là, à un moment donné, il regarde par la fenêtre, puis là, il la voit passer devant la fenêtre, puis tout nu, il va pas se fermer les yeux. Là.
Ouais. Mais ça, tout le monde regarderait, là, mettons. Ça, c'est peut-être le voyeur commun, je dirais.
Finalement, il la voit dans sa cour en train de se faire bronzer nu, puis là, il regarde un peu. Mais ouais, ça, c'est bon. Une chose. Mais il y a une grosse différence entre ça puis l'individu qui va... Ça, c'est comme plus un accident où est-ce que ça arrive par hasard puis il pensait pas que ça arriverait. Mais l'individu qui va créer la situation, puis qui va répéter la situation, puis ça devient quasiment compulsif, ben c'est là qu'on entre, je dirais, dans le côté de la déviance. Là. Mm. Ça devient complètement une autre sphère. Parce que on parle de d'excitation. Ce qui excite ces gars-là, à l'origine, c'est de faire ça en cachette. Que l'autre le sait pas qu'il est en train de le faire. Ça crée comme une espèce d'adrénaline. Puis souvent, tu sais, il y en a qui m'ont dit, quand ils mettaient, mettons, des caméras ou l'utilisation des fois de leur téléphone cellulaire dans des parties, ils le mettent, dans la salle de bain, ou peu importe la façon, là, ben c'est comme un... Surtout quand c'est face à des inconnus, ils se disent c'est comme un cadeau. Parce que tu sais pas ce que tu vas avoir comme image, parce que c'est une inconnue, fait que tu le sais pas quand tu vas les visionner, les images, ça va être quoi? Je vais te la trouver belle, je vais te la trouver pas belle, tu sais, c'est ça va. On le sait pas. Quand c'est des personnes connues, donc des victimes connues, parce que sans être plate, malheureusement, personne n'est à l'abri de ça. C'est comme le côté souvent inaccessible. Elle ne sera pas intéressée par moi. Donc, compte tenu que je ne suis pas capable de l'avoir dans la réalité, ben, je vais me l'approprier virtuellement. C'est de là l'idée que des fois, ça peut être justement un propriétaire qui va installer des caméras chez sa locataire qui trouve jolie, va mettre une caméra dans sa chambre, va mettre une caméra dans la salle de bain. Ça peut être le beau-père qui trouve sa belle-fille jolie, sur le même principe, ben il souhaiterait la voir nue, fait qu'il va installer des caméras. Ça peut même être, Isabelle, ça peut même être envers la conjointe. On s'entend, le couple a des relations sexuelles, mais le gars, ce qui peut le faire triper, c'est de la prendre en image à son insu dans des situations qu'elle penserait pas que le conjoint aurait accès à cette intimité-là.
Donc, c'est des gens pour qui même des situations aussi non sexuelles qu'aller faire ses besoins aux toilettes, là, on s'entend qu'il n'y a pas de...
Ouais, mais souvent...
C'est peut-être génital, mais c'est pas sexuel, là.
Ouais, mais c'est parce que généralement, même si, admettons, la femme est assise sur la toilette,
ouais,
pour faire ses besoins, ça sera pas dans le but de l'avoir uriné ou déféqué, là. Ça peut arriver dans des rares cas de d'urophilie ou de coprophilie. Mais de façon générale, c'est plus de se donner un accès aux parties génitales.
Sans que l'autre le sache. La notion de « en cachette » est importante.
Ben c'est la condition, je dirais, essentielle du voyeurisme, là. C'est vraiment la condition essentielle. Il faut que ça soit fait à son insu, parce que c'est ça qui crée majoritairement l'excitation sexuelle, puis qui donne une certaine, je dirais, une certaine poussée d'adrénaline.
Ah ouais. On a Mélanie qui a eu une expérience comme ça avec un voisin qui était voyeur. Bonjour Mélanie.
Oui, bonjour Madame Maréchal. Vous allez bien?
Oui, on vous écoute Mélanie.
Oui, j'étais plus jeune, j'étais à l'adolescence, puis j'avais un voisin qui était... Il me regardait, il ouvrait ses pages de magazine porno, là, puis il me regardait avec ses pages de magazine porno ouvertes. C'était assez dégoûtant. Assez dégoûtant. J'ai ma sœur qui se faisait suivre par un monsieur qui littéralement se masturbait en la suivant. Oui, je suis d'accord que c'est y a des hommes. Mais comme je disais à la dame qui m'a répondu, il y a énormément de femmes. On est témoin il y a autant de femmes que d'hommes qui sont voyeuristes, mm-hmm, et de tous les âges. J'ai travaillé dans le milieu de la clientèle dans un salon de coiffure, puis je vous dirais que les femmes âgées sont des voyeuristes experts.
Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Elles aiment regarder les jeunes, je vais dire dans la cinquantaine, là, tu sais, à travers leurs fenêtres, le torse nu qui se baigne.
Elles vous font ces confidences-là quand elles se font coiffer?
Absolument, madame. Ah! Vous seriez surprise de ce qu'elles peuvent dire.
Ah oui?
Ah oui, c'est les pires.
OK. Je ne sais pas si c'est les pires, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y en a. OK, bien merci. Ah, oui, merci, oui. Mélanie. On va aller à la pause là-dessus. Pas mal de monde qui m'écrit. Je vais vous lire pendant la pause. On va revenir, bien sûr, Mario Larrivé-Côté est là. Il est sexologue spécialiste de la délinquance sexuelle. On va poursuivre un petit peu pour expliquer les formes de déviance et de délinquance sexuelle. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais il y a aussi des histoires de pédophiles dans l'actualité. Là. Il y a même un gars là, qui... avait fait venir une jeune fille de 8 ans d'Afrique pour en faire son esclave sexuelle. Là, on est à un autre niveau, mais tu sais, quand les gens sont... Puis là, on réclame une sentence de 10 à 15 ans, puis il est étonné de ça. Il dit, voyons, comme si j'avais tué quelqu'un. Ben, utiliser une jeune fille de 8 ans comme esclave sexuelle, je pense que pour le reste de sa vie, il y a une partie d'elle qui va avoir été tuée, effectivement. Mais c'est fou comme les gens se voient pas, tu sais. C'est impressionnant, ça. On se retrouve tout de suite après. Nos numéros pour nous joindre. Dites-moi si vous avez été l'objet, victime d'un voyeur ou si vous-même, vous avez ce genre de comportement. S'il y en a qui sont conscients d'être certainement un peu déviants sexuellement, ben là, c'est la cerise sur une doldée. Je veux vous parler. 514-790-9850. À tout de suite. Devions, oh, devions. On parle de déviance sexuelle à la lumière de ces articles dans la presse où on nous disait qu'il y avait des caméras espionnes un peu partout, puis que le voyeurisme 3.0, parce que là, ça dépasse... Il y a la technologie qui est là, c'est sûr. Ça dépasse l'entendement là, pour quelqu'un qui a une sexualité tout à fait ordinaire, entre guillemets. On parle d'un fléau qui donne beaucoup de fil à retordre aux services policiers qui ont de la misère. Pourquoi la police est là-dedans? Parce que ça se retrouve sur des sites pornographiques. Il y a souvent des mineurs impliqués là-dedans aussi. C'est souvent aussi un lieu où se retrouve, Mario Larrivé-Côté, hein, des prédateurs sexuels, des pédophiles. En fait, tout le monde s'en donne à cœur joie un peu sur ces sites-là. À partir de ces images glanées ici et là, et surtout ces images volées dans des endroits publics, Mario.
Bien, en fait, je voulais juste, pour faire un lien avec ça, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Mélanie là, avant la pause.
Oui.
Tu sais, quand on parle de femmes voyeurs, ben, les exemples qu'elle donnait, il y avait un côté, je dirais, un peu soft à la déviance, dans le sens que, tu sais, c'est un peu regarder le voisin en chess en train de tondre sa pelouse, puis là, la madame, elle le regarde, puis elle le trouve bien beau. Mais les femmes vont généralement pas prendre des risques de se faire, je dirais, de commettre un crime, parce que là, on parle d'actes criminels, là, donc de prendre des risques de se faire arrêter en installant des caméras, parce qu'il faut le dire, faire ça, c'est un acte criminel qui est judiciarisable, puis ça fait en sorte que la personne peut se retrouver devant les tribunaux.
Ouais.
Malheureusement, la majorité des gars qui font ça, parce que c'est essentiellement des gars qui se retrouvent devant les tribunaux pour ça, généralement, Isabelle, ben, ils ont peu de risques quand même de se faire arrêter, puis de toute façon, ils trouvent qu'il n'y a pas vraiment de mal à faire ça, parce que c'est pas grave, parce qu'ils causent pas de victimes directes. Malheureusement, pour les femmes qui se font prendre à ça, ben, tu sais, c'est quand même un viol de leur intimité, mais ces gars-là, souvent, voient pas ça. Puis, les tribunaux, je dirais, sont quand même assez cléments dans ces semblables crimes, dans le sens où il n'y a pas vraiment de peine minimale. Le maximum, c'est 5 ans. C'est souvent, même des fois, accusé par voie sommaire, donc à la cour municipale. Le gars se retrouve avec une amende ou des travaux communautaires ou une peine discontinue de fin de semaine. C'est rare que... C'est des fois une peine en collectivité, donc une peine à domicile. C'est rare qu'un individu va se retrouver avec une peine de détention provinciale, donc moins de 2 ans, puis encore moins fédérale, plus que 2 ans. Là.
Mm-hmm.
C'est, si c'est un multi-récidiviste qui va en arriver là, mais il va avoir vraiment eu une gradation des peines. Au départ, quelqu'un qui se fait arrêter pour ça, les peines sont essentiellement très, très minimes.
Ouais. Et pourquoi c'est comme ça, Mario? C'est parce que sinon, il y en aurait trop, les prisons seraient pleines?
Ben,
ou...
parce que c'est dans la... Ben oui, ils sont déjà pleins de toute façon.
Ouais,
mais dans la
gravité, ou c'est parce qu'on considère finalement que c'est pas forcément important. Là.
Ben, tu sais, c'est parce que dans les crimes sexuels, comme dans n'importe quel crime, il y a comme une, je dirais, une gravité objective. Puis, tu sais, dans la fourchette des délits sexuels, tu sais, si on le demande à peu près à n'importe qui dans la population, entre un gars voyeur puis un gars qui agresse sexuellement un enfant, qu'est-ce qui est pire?
Ben,
la réponse
sûr.
Va être à peu près unanime. Ça va être celui qui agresse l'enfant.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, si on regarde au niveau de la gravité du délit comme tel, ben on considère qu'être voyeur, c'est moins pire que bien d'autres délits sexuels qui sont directement envers une personne. Là.
On va se tourner un peu vers notre auditoire. Il y a Marco qui voulait faire une précision sur les photos de dick pics. C'est ça, Marco? Bonjour.
Oui, bonjour Madame Maréchal. Moi, ce que j'aurais aimé partager avec vous, c'est que j'aurais aimé ça revenir un peu sur l'aspect générationnel et le rapport à la technologie que les générations plus jeunes peuvent entretenir par rapport au voyeurisme aussi. C'est que moi, je suis retourné au cégep étudier la sociologie un peu sur le tard. Là. J'avais 30 ans passé, puis évidemment, j'étais un des plus vieux, donc j'ai rencontré je me suis fait des camarades un peu plus jeunes. Et puis, je me souviens que j'ai un bon ami de cégep là qui me non seulement m'a confessé, mais m'a même montré, en fait, la façon dont ça marchait pour lui. Il avait environ 10 ans plus jeune que moi. Et puis lui, en fait, la façon dont il s'y prenait pour rencontrer des filles, c'est qu'il allait sur Tinder, et puis là, très souvent, pas toujours, mais très souvent, la façon dont ça fonctionne, la séduction pour cette génération-là, c'est que envoie-moi un dick pic, puis moi je vais t'envoyer une photo de mes seins.
Mm-hmm.
Et puis c'était donnant-donnant, là. Il n'y avait pas c'était pas nécessairement l'homme qui était plus voyeur que la femme ou vice-versa, c'était pas mal 50-50. Et puis je me souviens aussi, une autre petite anecdote par rapport à ça, c'est c'est que j'étais avec ma copine au Club Soda pour voir un spectacle. Là, je parle beaucoup avant la COVID, évidemment. Et puis, je me souviens que dans la rangée, juste devant moi, il y avait une jeune femme de peut-être 22, 23 ans, je sais pas trop, qui déroulait toute une liste de dick pics en public comme ça, sous les yeux de tous. Là. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup une question aussi générationnelle, puis le rapport à la technologie qu'on peut avoir, parce que c'est pas nécessairement la même situation quand on a 30, 40, 50 ans que quand on est né avec la technologie
les mains. Je vais demander à Mario Larrivé-Côté ce qu'il en pense. Merci, Marco. Mario, c'est une question de génération, d'après toi?
Ce que dit Marco est quand même pertinent dans le sens où le côté générationnel, oui, mais en même temps, ce que je remarque là, beaucoup dans ma pratique, là, Isabelle, c'est qu'on dirait que la notion d'intimité, malheureusement, chez les plus jeunes qui sont effectivement nés avec la technologie, elle n'existe plus. Tu sais, la séduction qu'on a connue d'inviter quelqu'un à aller prendre un verre, à aller souper, puis là, on discute, puis tout ça, puis on jase, puis on voit si on a des affinités pour éventuellement, peut-être, soit avoir une activité sexuelle ou devenir un couple ou quelque chose comme ça, ben chez les plus jeunes, on n'est pas là du tout. Là. Ce qu'expliquait Marco, c'est exactement ça. Il y a différentes applications, puis c'est vraiment c'est du fast-food sexuel. Là. C'est de la consommation sexuelle rapide où est-ce que, justement, des échanges de photos, puis on regarde vite ce qu'on a l'air, puis un s'en va chez l'autre, ou même des fois, ça se fait, tu sais, ça se fait à l'extérieur, ça se fait dans l'auto, ça se fait un peu n'importe où. Des exemples, là, je pourrais t'en donner probablement pour toute la journée des exemples différents aussi, abracadabrant les uns que les autres à ce niveau-là. Souvent, ils ont des activités sexuelles, puis ils savent même pas leur prénom, là.
Ouais, non, ben c'est sûr.
Et à quel point c'est complètement anonyme puis détaché de l'intimité là est pas là du tout. Là.
Ouais, parlant d'anonyme, j'ai quelqu'un qui m'écrit anonyme et qui me dit c'est une maladie très dure que le voyeurisme. Je lutte contre ça chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à enlever ça de ma vie? C'est intéressant, je trouve. Bon, j'ai pas le nom, c'est quelqu'un qui est anonyme, qui veut le rester visiblement, mais qui vraiment, qui me dit « je suis tannée du trouble du voyeurisme ». Donc, quelqu'un ici, là, qui est conscient de son comportement, puis ça pollue sa vie. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont ce trouble-là?
Un problème, je l'inviterais, si c'est possible, à consulter quelqu'un dans le domaine. Souvent, dans les cas les plus sévères de cette déviance-là, on parle souvent de fantasme primaire. C'est que l'individu a commencé ça très jeune en ayant accès, ça peut être à sa mère, à sa sœur qui se dénude. Puis là, il regarde en cachette, puis ça a alimenté ses premiers fantasmes, puis ça l'a créé un niveau d'excitation important, ou ça peut être même la voisine ou une autre petite fille, ou tu sais, quelqu'un que finalement, il se dit « Ah, c'est vraiment excitant ». Puis souvent, chez la personne, les fantasmes primaires, les premiers modes d'excitation sexuelle vont perdurer au fil du temps puis au fil de sa vie. Puis malheureusement, je suis obligé d'être d'accord avec ce que le monsieur vient de dire, c'est que c'est quelque chose qui est quand même difficile à traiter parce que c'est facile à retomber là-dedans. Souvent, le voyeur, quand il y a des émotions, souvent les autres déviances aussi, là, mais je dirais, particulièrement le voyeur, quand il vit des émotions négatives, quand il est d'une période plus vulnérable, quand il s'ennuie, quand il se sent seul, quand il se sent triste, quand il est en colère, quand il se sent agressif, ben il va retomber dans ce mode-là, je dirais, compulsif de voyeurisme. Ce qui est important, c'est d'essayer de travailler à avoir, je dirais, la plus belle qualité de vie possible dans le sens au niveau des différentes sphères de sa vie.
Ouais, attends, parce qu'il y a Anonyme qui me répond puis il dit qu'il n'y a pas d'aide psychologique disponible pour l'aider. Ben, on revient toujours à ça, hein, Mario. C'est l'aide psychologique disponible. C'est vrai que ça soit ce trouble-là ou un autre. C'est difficile pour les gens de trouver de l'aide.
Vous pouvez peut-être prendre ses coordonnées et on pourra regarder ce qui pourra être fait, là.
OK. Bon, ben Anonyme, laissez-moi vos coordonnées. Il y a Mario qui est assez gentil pour essayer de vous trouver une aide particulière.
Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, généralement, là, tout ce qui est comportement de délinquance sexuelle, là, c'est pas des gars qui viennent de gagner. C'est plate à dire, là, mais c'est pas des gars qui viennent de gagner à 6,49 qui font ça, là. Généralement, c'est parce que ça va pas bien dans leur vie. Puis malheureusement, depuis, on s'entend, là, depuis la COVID, depuis la pandémie, depuis l'année passée, les gens sont de plus en plus isolés puis consomment davantage de matériel sexuellement explicite pour gérer leur stress, pour gérer un paquet d'affaires. Fait que c'est sûr que ça peut être complexe, mais à partir du moment que l'individu travaille sur ce qui va pas bien dans sa vie, puis essaye que ça aille mieux dans les différentes sphères de sa vie, ben le niveau qui va, d'importance qu'il va accorder à ça peut diminuer.
Écoute, on va faire une pause ici. On va revenir tout de suite après parce que visiblement, là, ça a comme allumé l'imaginaire des gens. Il y a beaucoup de questions encore, alors on revient tout de suite après. On parle de déviance sexuelle à la lumière de ces articles dans la presse où on nous disait qu'il y avait des caméras espionnes un peu partout, puis que le voyeurisme 3.0, parce que là, ça dépasse, il y a la technologie qui est là, c'est sûr, ça dépasse l'entendement là, pour quelqu'un qui a une sexualité tout à fait ordinaire, entre guillemets. On parle d'un fléau qui donne beaucoup de fil à retordre, pardon, aux services policiers qui ont de la misère. Pourquoi la police est là-dedans? Parce que ça se retrouve sur des sites pornographiques. Il y a souvent des mineurs impliqués là-dedans aussi. C'est souvent aussi un lieu où se retrouvent, Mario Larrivé-Côté, hein, des prédateurs sexuels, des pédophiles. En fait, tout le monde s'en donne à cœur joie un peu sur ces sites-là. À partir de ces images glanées ici et là, et surtout ces images volées dans des endroits publics, Mario.
Bien, en fait, je voulais juste, pour faire un lien avec ça, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Mélanie là, avant la pause.
Oui.
Tu sais, quand on parle de femmes voyeurs, ben les exemples qu'elle donnait, il y avait un côté, je dirais, un peu soft à la déviance, dans le sens que, tu sais, c'est un peu regarder le voisin en chess en train de tondre sa pelouse, puis là, la madame, elle le regarde, puis elle le trouve bien beau. Mais les femmes vont généralement pas prendre des risques de se faire, je dirais, de commettre un crime, parce que là, on parle d'actes criminels, là, donc de prendre des risques de se faire arrêter en installant des caméras, parce qu'il faut le dire, faire ça, c'est un acte criminel qui est judiciarisable, puis ça fait en sorte que la personne peut se retrouver devant les tribunaux.
Ouais.
Malheureusement, la majorité des gars qui font ça, parce que c'est essentiellement des gars qui se retrouvent devant les tribunaux pour ça, généralement, Isabelle, ben ils ont peu de risques quand même de se faire arrêter. Puis de toute façon, ils trouvent qu'il n'y a pas vraiment de mal à faire ça parce que c'est pas grave, parce qu'ils causent pas de victimes directes. Malheureusement, pour les femmes qui se font prendre à ça, ben tu sais, c'est quand même un viol de leur intimité. Mais ces gars-là, souvent, voient pas ça. Puis les tribunaux, je dirais, sont quand même assez cléments dans ces semblables crimes, dans le sens où il n'y a pas vraiment de peine minimale. Le maximum, c'est 5 ans. C'est souvent même des fois accusé par voie sommaire, donc à la cour municipale. Le gars se retrouve avec une amende ou des travaux communautaires ou une peine discontinue de fin de semaine. C'est rare que, c'est des fois une peine en collectivité, donc une peine à domicile. C'est rare qu'un individu va se retrouver avec une peine de détention provinciale, donc moins de 2 ans, puis encore moins fédérale, plus que 2 ans. Là.
Mm-hmm.
C'est un multi-récidiviste qui va en arriver là, mais il va avoir vraiment eu une gradation des peines. Au départ, quelqu'un qui se fait arrêter pour ça, les peines sont essentiellement très, très minimes.
Oui, et pourquoi c'est comme ça, Mario? C'est parce que sinon, il y en aurait trop, les prisons seraient pleines?
Ben,
ou...
parce que c'est dans la... Ben oui, ils sont déjà pleins de toute façon.
Ouais,
mais dans la...
Ou c'est parce qu'on considère finalement que c'est pas forcément important, là.
Ben, tu sais, c'est parce que dans les crimes sexuels, comme dans n'importe quel crime, il y a comme une, je dirais, une gravité objective. Puis, tu sais, dans la fourchette des délits sexuels, tu sais, si on le demande à peu près à n'importe qui dans la population, entre un gars voyeur puis un gars qui agresse sexuellement un enfant, qu'est-ce qui est pire?
Ben
la réponse
sûr.
Va être à peu près unanime. Ça va être celui qui agresse l'enfant.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, si on regarde au niveau de la gravité du délit comme tel, ben on considère qu'être voyeur, c'est moins pire que bien d'autres délits sexuels qui sont directement envers une personne. Là.
On va se tourner un peu vers notre auditoire. Il y a Marco qui voulait faire une précision sur les photos de dick pics. C'est ça, Marco? Bonjour.
Oui, bonjour Madame Maréchal. En fait, moi, ce que j'aurais aimé partager avec vous, c'est que j'aurais aimé ça revenir un peu sur l'aspect générationnel et le rapport à la technologie que les générations plus jeunes peuvent entretenir par rapport au voyeurisme aussi. C'est que moi, je suis retourné au cégep étudier la sociologie un peu sur le tard. Là. J'avais 30 ans passé, puis évidemment, j'étais un des plus vieux, donc j'ai rencontré des... je me suis fait des camarades un peu plus jeunes. Et puis, je me souviens que j'ai un bon ami de cégep là qui me non seulement m'a confessé mais m'a même montré en fait la façon dont ça marchait pour lui. Il avait environ 10 ans plus jeune que moi, et puis lui en fait la façon dont il s'y prenait pour rencontrer des filles, c'est qu'il allait sur Tinder, et puis là très souvent, pas toujours mais très souvent, la façon dont ça fonctionne, la séduction pour cette génération-là, c'est que envoie-moi un dick pic, puis moi je vais t'envoyer une photo de mes seins. Mm-hmm. Et puis c'était donnant-donnant, là. Il y avait pas un c'était pas nécessairement l'homme qui était plus voyeur que la femme ou vice-versa, c'était pas mal 50-50. Et puis je me souviens aussi une autre petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'étais avec ma copine au Club Soda pour voir un spectacle. Là, je parle beaucoup avant la COVID, évidemment. Et puis, je me souviens que dans la rangée, juste devant moi, il y avait une jeune femme de peut-être 22, 23 ans, je sais pas trop, qui déroulait toute une liste de dick pics en public comme ça, sous les yeux de tous. Là. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup une question aussi générationnelle, puis le rapport à la technologie qu'on peut avoir, parce que c'est pas nécessairement la même situation quand on a 30, 40, 50 ans que quand on est né avec la technologie
les mains. Je vais demander à Mario Larrivé-Côté ce qu'il en pense. Merci, Marco. Mario, c'est une question de génération, d'après toi?
Ben, en fait, ce que dit Marco est quand même pertinent dans le sens où le côté générationnel, oui, mais en même temps, ce que je remarque là, beaucoup dans ma pratique, là, Isabelle, c'est que on dirait que la notion d'intimité, malheureusement, chez les plus jeunes qui sont effectivement nés avec la technologie, elle n'existe plus. Tu sais, la séduction qu'on a connue d'inviter quelqu'un à aller prendre un verre, à aller souper, puis là, on discute, puis tout ça, puis on jase, puis on voit si on a des affinités pour éventuellement, peut-être, soit avoir une activité sexuelle ou devenir un couple ou quelque chose comme ça, ben chez les plus jeunes, on n'est pas là du tout. Là. Ce qu'expliquait Marco, c'est exactement ça. Il y a différentes applications, puis c'est vraiment c'est du fast-food sexuel. Là. C'est de la consommation sexuelle rapide où est-ce que, justement, des échanges de photos, puis on regarde vite ce qu'on a l'air, puis un s'en va chez l'autre, ou même des fois, ça se fait, tu sais, ça se fait à l'extérieur, ça se fait dans l'auto, ça se fait un peu n'importe où. Des exemples, là, je pourrais t'en donner probablement pour toute la journée des exemples différents aussi, abracadabrant que les autres à ce niveau-là. Souvent, ils ont des activités sexuelles, puis ils savent même pas leur prénom, là.
Ouais, non, ben c'est sûr.
Et à quel point c'est complètement anonyme puis détaché de l'intimité, là, est pas là du tout, du tout, du tout. Là.
Ouais, parlant d'anonyme, j'ai quelqu'un qui m'écrit, anonyme, et qui me dit « C'est une maladie très dure que le voyeurisme. Je lutte contre ça chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à enlever ça de ma vie? » C'est intéressant, je trouve. Bon, j'ai pas le nom, c'est quelqu'un qui est anonyme, qui veut le rester visiblement, mais qui vraiment, qui me dit, je suis tannée du trouble du voyeurisme. Donc, quelqu'un ici, là, qui est conscient de son comportement, puis ça pollue sa vie. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont ce trouble-là?
Un problème. Je l'inviterais, si c'est possible, à consulter quelqu'un dans le domaine. Souvent, dans les cas les plus sévères de cette déviance-là, on parle souvent de fantasme primaire. C'est que l'individu a commencé ça très jeune, en ayant accès, ça peut être à sa mère, à sa sœur qui se dénude, puis là, il regarde en cachette, puis ça a alimenté ses premiers fantasmes, puis ça l'a créé un niveau d'excitation important, ou ça peut être même la voisine, ou une autre petite fille, ou tu sais, quelqu'un que finalement, il se dit, ah, c'est vraiment excitant. Puis souvent, chez la personne, les fantasmes primaires, les premiers modes d'excitation sexuelle vont perdurer au fil du temps puis au fil de sa vie. Puis malheureusement, je suis obligé d'être d'accord avec ce que le monsieur vient dire, c'est que c'est quelque chose qui est quand même difficile à traiter parce que c'est facile à retomber là-dedans. Souvent, le voyeur, quand il y a des émotions, souvent les autres déviances aussi, là, mais je dirais, particulièrement le voyeur, quand il vit des émotions négatives, quand il est d'une période plus vulnérable, quand il s'ennuie, quand il se sent seul, quand il se sent triste, quand il est en colère, quand il se sent agressif, ben il va retomber dans ce mode-là, je dirais, compulsif de voyeurisme. Ce qui est important, c'est justement, c'est d'essayer de travailler à avoir, je dirais, la plus belle qualité de vie possible, dans le sens au niveau des différentes sphères de sa vie.
Ouais, attends, parce qu'il y a Anonyme qui me répond, puis il dit il n'y a pas d'aide psychologique disponible pour l'aider. Ben, on revient toujours à ça, hein, Mario. C'est l'aide psychologique disponible. C'est vrai que ça soit ce trouble-là ou un autre. C'est difficile pour les gens de trouver de l'aide.
Vous pouvez peut-être prendre ses coordonnées pour regarder ce qui pourrait être fait, là.
OK. Bon, ben, Anonyme, laissez-moi vous coordonner. Il y a Mario qui est assez gentil pour essayer de vous trouver une aide particulière.
Mais ben, c'est généralement, ouais. Ce que je voulais dire par rapport à ça, généralement, là, tout ce qui est comportement de délinquance sexuelle, là, c'est pas des gars qui viennent de gagner. C'est plate à dire, là, mais c'est pas des gars qui viennent de gagner à 6,49 qui font ça, là. Généralement, c'est parce que ça va pas bien dans leur vie. Puis malheureusement, depuis, on s'entend, là, depuis la COVID, depuis la pandémie, depuis l'année passée, les gens sont de plus en plus isolés puis consomment davantage de matériel sexuellement explicite pour gérer leur stress, pour gérer un paquet d'affaires. Fait que c'est sûr que ça peut être complexe, mais à partir du moment que l'individu travaille sur ce qui va pas bien dans sa vie, puis essaye que ça aille mieux dans les différentes sphères de sa vie, ben le niveau d'importance qu'il va accorder à ça peut diminuer.
Écoute, on va faire une pause ici. On va revenir tout de suite après parce que visiblement, là, ça a comme allumé l'imaginaire des gens. Il y a beaucoup de questions encore, alors on revient tout de suite après. Sophie m'écrit qu'elle est agent de bord. Elle dit « Vous pouvez pas savoir comment les hommes vont essayer d'effleurer mes fesses dans l'avion et ça de façon intentionnelle. » Joanne me dit qu'il y avait même, elle travaillait dans un commerce, puis il y avait un employé dans le commerce qui avait mis une caméra dans la salle de bain du commerce puis qui s'est fait prendre quand quelqu'un s'est rendu compte qu'il était en train de replacer la caméra. Elle dit, moi, depuis ce temps-là, je vais plus aux toilettes dans les commerces ni dans les restos. Ou quand j'achète mes vêtements maintenant, là, je les essaye ben pas dans les cabines d'essayage non plus. Elle dit, imaginez quand on va se faire masser au gym, chez le gynécologue, dans les salons de bronzage, je veux dire, les lieux sont infinis. On a Véronique qui a été victime deux fois d'un voyeur. Bonjour, Véronique.
Bonjour. Oui, dans le fond, il y a une fois quand j'étais jeune, j'étais chez mes parents. J'étais sortie de la douche, je m'en allais dans ma chambre, tout ça. Puis j'ai un miroir direct sur ma porte de chambre qui fait face à ma fenêtre.
Mm-hmm.
Puis j'ai vu la personne dans ma fenêtre. En me changeant devant mon miroir. Puis là, je me suis tout de suite couchée au sol devant mon lit qui me cachait. Puis j'ai comme appelé mon frère que lui, il a couru voir dehors s'il était là. Puis mes parents ont des caméras, puis on l'a vu sur les caméras en train de regarder. Puis la deuxième fois, c'était dans ma maison. Puis j'étais dans le fond, dans le bain, que je laissais ma porte ouverte parce que j'ai un de mes enfants qui dormait. Fait que, en tout cas, puis là, j'ai laissé la porte ouverte pour justement l'entendre. Mm-hmm. Puis la fenêtre a fait face un peu au bain, à la salle de bain, dans le fond. Puis j'avais entendu un bruit dans la fenêtre. Puis c'était l'hiver. Puis quand j'ai sorti de mon bain tout de suite, j'ai été voir dehors, puis j'ai vu les traces de pas dans la neige.
Il voulait vraiment. Avez-vous appelé la police? C'était pas la même personne.
Non. C'était pas la même personne, non. Puis l'autre, la deuxième, on pensait que c'était un jeune de 18 ans là, qui habitait dans la maison à côté. C'est comme à cet âge-là, ça se découvre un peu. Ben, 18-16 ans.
18, un peu, oui, c'est ça, plus jeune que
mais
ça.
Bon, mais bon, en tout cas.
Merci beaucoup. Audrey aussi a été l'objet d'un voyeur. Bonjour, Audrey.
Oui, allô?
On vous écoute?
En gros, c'est que il y a un groupe Telegram en ce moment qui passe partout sur les réseaux. Et en fait, c'est en grosse ligne, ça expose beaucoup de nudes de filles tout nues, ça expose beaucoup de pornographie juvénile aussi. Et en ce moment, moi, j'ai été expose dans ce groupe-là, moi et ma fille, en fait, on a été expose dans ce groupe-là. Et clairement, il y a beaucoup dans ce groupe-là, il y a beaucoup de conneries du genre les filles c'est un trou, les filles c'est des objets. Les filles c'est juste un mouchoir, c'est juste, il y a beaucoup de commentaires dégueulasses. Et lorsque j'ai vu que ma fille était exposée dans le groupe, ça disait « lorsqu'elle aura 18 ans, elle va être bonne à baiser. Lorsqu'elle aura 18 ans, mettez-la de côté, moi je vais la baiser. » Vous voyez un peu le genre de...
C'est épouvantant, ben oui, oui, oui.
Exactement, oui.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Avez-vous appelé la police quand vous avez vu ces photos de vous?
Oui, effectivement, il y a des démarches au niveau des corps policiers qui ont été faites. Il y a beaucoup, beaucoup... Honnêtement, il y a beaucoup de démarches. J'ai une page Instagram qui expose, en fait, ce groupe-là. Donc, tu sais, je veux dire, on essaie énormément de faire voir à la police, de leur faire ouvrir les yeux que qu'en fait, les gars sont juste assez dégueulasses envers les filles, qu'il y a beaucoup de pornographie qui est publiée dans ce groupe-là. Mais je te dirais que les deux premiers postes que mes deux amis ont visités pour porter plainte ne voulaient pas nécessairement rentrer dans l'histoire. Donc, ils se sont fait virer de bord. Et je te dirais que la police essaye beaucoup, beaucoup de pas avoir affaire là-dedans, en fait.
Ouais, parce qu'ils savent qu'ils ont tellement peu de moyens, là. C'est ça qui est pathétique. Merci, Audrey. Merci beaucoup.
Merci.
Mario Larrivé-Côté. Justement, je voulais qu'on termine avec cette histoire de Telegram parce que chez les jeunes, là, qui sont très réseaux sociaux, on parlait de la génération techno, là. Mais c'est vrai que le Telegram, là, cette application-là, il se retrouve toutes sortes d'affaires. Et comme nous le disait bien Audrey, il y a beaucoup de porn revenge, c'est-à-dire des ex qui mettent des photos de leur blonde. Ça nous donne l'occasion, nous comme parents, de rappeler à nos filles, puis à nos gars aussi, ne te même si tu l'aimes, ton chum, ta blonde, souviens-toi qu'un jour, peut-être, ça se peut qu'il t'aime moins. Tu veux pas voir des photos de toi dans des positions sexuelles, se retrouver sur des sites comme ça. C'est peut-être là où... Il y a peut-être un message de prévention à passer, Mario.
Surtout à l'adolescence, on s'entend que les relations de couple sont pas nécessairement longues. Puis quand les petits gars sont pas contents, ben là, la revenge porn peut embarquer plus facilement. Mais c'est un peu le côté décourageant. On le voit présentement, Isabelle, les policiers, les corps policiers sont complètement inondés. Tu sais qu'on parle de violence conjugale, on parle de la DPJ, on parle de tout ce qui est crime en matière sexuelle, sont complètement inondés, puis traités toutes les plaintes, ben c'est pas nécessairement évident, et malheureusement, ben ils vont aussi aller par ordre de priorité et par ordre de gravité du crime. Puis là, ben ce qui s'en vient, tu sais, j'entendais tout ce que disait Audrey, puis c'est malheureusement ce qui se passe actuellement, mais ce qui est aussi en train de se passer, c'est des gens qui vont prendre, je dirais, la tête de quelqu'un, que ce soit un enfant, une adolescente ou une femme adulte. Puis là, ben, ils vont juste à poser ça avec le photo d'un corps nu. Fait que là, finalement, tu te retrouves sur Internet avec des photos nues qui sont pas ton vrai corps, mais que les gens peuvent facilement penser que c'est ton vrai corps, là. Puis après ça, essaye d'effacer ça.
Ah ouais.
C'est comme vraiment pas évident. Il n'y a pas encore là personne qui est à l'abri de ça. On prend juste le visage de quelqu'un, on met un corps nu de quelqu'un d'autre, on met les deux ensemble, puis on met ça sur Internet, puis on dit, regardez, c'est elle, ça, tout nu. Mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. Avec la technologie, là, ça a ses bons côtés, mais malheureusement, ça a des très mauvais côtés pour les gens qui sont mal intentionnés puis les gens qui, malheureusement, ont des déviances sexuelles.
Ouais. Puis quand la Cour du Québec dit c'est un fléau, ce genre d'histoire-là, un fléau social en recrudescence, on n'a pas fini d'en voir, donc, Mario.
Je le vois dans ma pratique, là, des histoires comme ça dans les dernières années de crimes technologiques en matière sexuelle. Des exemples, là, on pourrait s'en donner toute la journée. Tu sais, je pourrais pas parce que ça pourrait cibler des personnes qui pourraient se reconnaître. Mais tu sais, des exemples, là, j'en aurais comme plein, là. Puis malheureusement, c'est pas ce qu'on voyait dans les années précédentes autant que ce qu'on voit présentement, là. Puis je pense pas que ça va aller vers mieux parce que la technologie évolue de plus en plus et de plus en plus vite. Puis les corps policiers ont de la difficulté à suivre tellement que ça évolue vite, là.
Ouais, exactement.
Puis que les individus qui utilisent leur intelligence à mauvais escient, ben, l'utilisent vraiment à fond, puis contribuent à alimenter, je dirais, toutes les personnes déviantes de ce monde.
Ouais. Merci beaucoup. C'est fascinant, très, très éducatif.
On n'a pas eu le temps de parler de Sylvain Villemaire.
Ben écoute, Sylvain Villemage, j'en glissais un mot tout à l'heure. T'sais, visiblement, le gars, veux-tu me réagir là-dessus? Le gars, il s'étonne. La poursuite demande jusqu'à 15 ans de pénitencier parce que le psycho-éducateur Sylvain Villemage a ramené une fillette de 8 ans d'Afrique pour en faire son esclave sexuelle. Il aurait fait signer des papiers comme quoi il pouvait faire comme il voulait avec elle, quand il voulait, en échange d'eau potable pour la mère qui était restée prise en Afrique. Puis là, aujourd'hui, il dit quoi? 10-15 ans, voyons donc, comme si j'avais tué quelqu'un.
Oui. Ben, il y a deux options. Il est allé en Côte d'Ivoire, il a rencontré la mère, c'est ce que j'ai pu lire. Il a voulu, il semblerait, créer une famille. Il a commencé par amener l'enfant. Il a développé une fantasmatique sexuelle face à l'enfant, puis il l'a abusé sexuellement. Puis il s'est dit, ben, compte tenu que j'ai l'enfant déjà, pourquoi pas? C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'il a rencontré la mère, il est allé là-bas, il s'est comme... je dirais magasiner un enfant. Il a ramené un enfant vulnérable. On s'entend qu'il était pauvre, qu'il était démuni. Sa mère invitait sa fille à continuer pour obtenir l'argent, justement, pour avoir de l'eau potable. Puis l'enfant était coincé ici au Québec avec un homme sensiblement inconnu. Pas de famille, rien. Par contre, la mère disait à sa fille, ben, fais attention à sa fille et à ce monsieur-là, ben, fais attention à sa virginité, là, parce qu'on s'entend qu'on avait affaire à un enfant de 8 ans. Donc, le côté, en plus, tordu du contrat, Isabelle, comme tu disais, c'est que, tu sais, ouais, il pouvait faire ce qu'il voulait avec, comme il voulait, quand il voulait, puis en plus, il disait, ben, il faut que ça reste confidentiel, c'est comme notre secret. Fait qu'il y a tout le côté de culpabilisation, de manipulation qui rentre en ligne de compte, puis sans oublier la panoplie de ce que j'ai pu lire de distorsions cognitives qu'il pouvait avoir ensemble. Mmh. Il semble pas reconnaître, qu'il prend pas responsabilité de ça, qu'il abusait pas vraiment d'elle.
Ouais. Mais si tu veux bien, Mario, on va s'arrêter ici parce que justement, en terminant, je voulais qu'on parle du nombre de cas de traite de la personne qui a beaucoup, beaucoup augmenté. Les chiffres sont sortis aujourd'hui, là, puis c'est un fléau au Canada. Donc, il va nous rester quelques minutes. On va enchaîner là-dessus tout de suite après ceci.
98.5. Circulation.
Dans 47, il fait 0 de 10. Pardon, 10 degrés, centre-ville. Ouais, 40 est avant le pont Charles de Gaulle. Il y a des travaux, voie droite, ça dérange un peu. À part ça, le grand réseau, on se débrouille très bien. Territoire de la Rive-Sud et de Laval également, rien de particulier. Ce mardi 11 mai, Home Depot organise un salon de l'emploi virtuel régional entre 17h et 19h. Détails et inscriptions à homedepot.ca sous carrière au Canada.
Au cours de la dernière année, nous avons vécu dans l'incertitude. Nos décisions étaient prises en fonction du présent. Maintenant, il est temps d'avancer, de regarder devant et de penser à nos proches. Au service commémoratif Mont-Royal, nous pouvons vous aider à offrir la tranquillité d'esprit à vos proches en planifiant aujourd'hui. Nos trois emplacements desservent la grande région de Montréal, du cimetière et complexe funéraire Belvédère à l'ouest, au cimetière et complexe funéraire d'Étrembles à l'est, et bien sûr au cimetière et complexe funéraire Mont-Royal au cœur de la ville. En ligne à cimetieremontroyal.com.
Le forfait ultime de la Banque Scotia est conçu pour vous en donner plus. Épargnez plus avec un taux d'intérêt jusqu'à 1,80%. Obtenez-en plus avec des opérations de virement Interact illimitées, 10 opérations gratuites avec Scotia iTrade et une prime de bienvenue de 300$. Ce compte bancaire tout en un vous permet d'en faire plus. Des conditions s'appliquent. Le taux d'intérêt est offert pour une durée limitée et varie selon la période d'épargne. Allez à banquescotia.com/ultime300. Banque Scotia.
Tu nous as fait du jus d'orange pressé. Oh non! Tu t'es fait un jus d'orange pressé.
Ben...
Pis t'as passé le sac au complet?
Mais il y a plus de pleurs que de jus dans ces oranges-là. Regarde, j'ai rempli le bac à compost.
Et c'est pas perdu. Avec les pleurs d'orange et autres déchets alimentaires qu'on récupère dans le bac brun, on peut produire du gaz naturel renouvelable. Une énergie propre et locale. Énergir. Pensez l'énergie autrement.
Merci, mon amour.
Mon verre!
Le téléphone pour les commandes en ligne de l'épicerie Rougeau ne dérougit pas.
OK, je peux pas faire la caisse, répondre au téléphone et préparer des paniers.
Il est temps d'embaucher.
On a besoin d'Indeed.
Indeed vous aide à trouver des candidats de qualité dont les CV correspondent à la description du poste. Découvrez pourquoi plus de 25 000 entreprises québécoises utilisent Indeed pour embaucher. Visitez Indeed.com/réclamer et obtenez un crédit de $100 pour afficher votre première offre d'emploi. Certaines conditions s'appliquent.
Walmart est l'endroit numéro un pour économiser sur l'épicerie. Économisez $4.10 sur une bouteille d'huile d'olive extra vierge Gallo de 1 litre, maintenant seulement $3.87 chez Walmart.
Au 98.5 Montréal, vous avez des choses à dire. Isabelle vous écoute. Voici Isabelle.
Avec nous, Mario Larrivé-Côté, sexologue spécialiste en délinquance sexuelle. Je voulais qu'on revienne rapidement pour la conclusion de cette émission sur le nombre de dossiers de traite de personnes qui ont été ouverts par les corps policiers qui ont bondi. Mario, tu as vu ça? C'est Statistique Canada là, qui montre que ce type de crime, ça a pris une ampleur inégalée au Canada, au pays dont on a souvent dit qu'on était le chef de file en matière de traite des personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce phénomène? Est-ce que c'est comme le voyeurisme? Il y en aura de plus en plus parce que la technologie le permet?
Bien, en fait, parce que malheureusement, avant qu'Internet existe, là, dans l'ancien temps, on va dire, là, veux pas, pour avoir accès à quelqu'un, tu avais besoin quasiment d'avoir un contact direct avec. Malheureusement, maintenant, avec Internet, n'importe qui peut trouver n'importe quoi qu'il veut. Fait qu'à partir du moment que quelqu'un a un besoin, il va trouver une façon de le combler par Internet. Puis pire que ça, il risque de se trouver par différents réseaux sociaux que je nommerai pas pour pas
donner des adresses, ouais.
Des adresses à du monde mal intentionné. Ben, qui vont se donner des contacts entre eux, puis des trucs entre eux aussi. Parce que c'est ça, la réalité, c'est qu'avant, le déviant sexuel qui avait un problème était tout seul avec son problème. Maintenant, il partage avec d'autres personnes.
Il y a plein de petits amis comme lui, c'est ça, là? Ouais.
Il y a plein de petits amis, puis en plus, ben ils vont s'échanger du contenu. En fait, ils vont créer du contenu, ils vont s'échanger du contenu, puis ils vont justement s'alimenter de un dans les trucs pour arriver à leur fin, pour avoir des victimes potentielles, mais aussi des trucs pour pas se faire prendre.
Mm-hmm.
Donc, on peut vraiment trouver de tout sur Internet. Puis, comme je disais tantôt, au début, la technologie crée pas la déviance, mais malheureusement, ça alimente la déviance de ceux qui en ont une, là.
Ouais, exactement. Ce qui est inquiétant dans ces affaires de traite de personnes qui augmentent, puis malheureusement, Montréal est l'une des villes canadiennes où le plus de cas de traite de personnes a été dénombré. On dit que c'est à peu près 7% des cas à travers le Canada. À Toronto, remarque, c'est pire, il y a 17%, puis Halifax, 9%. Bref, quand même, dans les grandes capitales canadiennes, c'est un vrai problème. Là, dans ce cas-ci, c'est pas juste sur Internet. C'est qu'on peut s'être servi d'Internet, mais on sait aussi, c'est de l'abus sexuel qui mène au proxénétisme. C'est-à-dire qu'ils mènent à la prostitution au sein des gens. Puis visiblement, les victimes, en tout cas une victime sur trois à peu près, connaissait son proxénète, son agresseur ou la personne qui l'a vendu sexuellement. Là. Ça peut être un ami, une connaissance, un chum, un ex-chum. C'est ça qu'on apprend là-dedans aussi. Là.
Ça, c'est un autre fléau, là, le proxénétisme. Ça aussi, il y en a beaucoup. Mais ce qui est le plus payant là sur la planète, c'est la drogue, les armes, puis la traite de personnes, donc les victimes sexuelles. La différence entre les trois, c'est que quand tu vends de la drogue puis qu'elle est consommée, elle se recycle pas, elle est consommée, la drogue. Les armes, généralement, quand elles sont utilisées, peuvent être revendues, mais des fois, les gens vont les faire disparaître. Malheureusement, pour les victimes de traite de personnes, ben, ils sont comme vendus, échangés, recyclés comme des cartes de hockey. C'est plate ce que je dis, mais c'est la réalité. Ils vont être vendus à un gars. Après ça, ben, quand ils vont avoir fait le tour, puis qu'ils vont avoir besoin d'avoir des nouvelles personnes, tu sais, dans le milieu, des fois, ils vont dire du nouveau stock, pour être cru, là. Ben, là, ils vont se les échanger. Ils vont envoyer, mettons, celle de Toronto à Montréal, puis celle de Montréal à Toronto. pour justement que la clientèle puisse être alimentée avec des nouvelles jeunes personnes.
Ah. Et quand tu dis jeunes, t'as raison, il y a plus de 20 % des victimes qui sont des mineurs ici.
Oui, des adolescentes, puis des fois des enfants.
Des enfants. Ah, mon Dieu, écoute, c'est pas drôle, mais c'est important qu'on soit tous au courant de ces sujets-là pour faire de la prévention auprès de nos jeunes. Hein. Comme parents, on a un devoir d'éduquer nos jeunes là-dessus. Merci beaucoup, Mario Larrivé-Côté. Toujours très intéressant. Sexologue, spécialiste en délinquance. On se retrouve demain. Passez une bonne journée.